Merci d'écouter Europe 1. Belle journée, il est 13h01.
Midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. J'ai 60 minutes pour vous convaincre que la France bouge et que chez vous, dans vos entreprises, vos associations et dans les territoires, c'est vous qui la faites bouger. Gros plan aujourd'hui sur la maroquinerie, sacs, ceintures et autres accessoires fabriqués chez nous. Mais il n'y a pas qu'un seul cuir, il prend aujourd'hui de nombreuses facettes plutôt inattendues. Elle est née d'un mariage entre deux très vieilles maisons. Isigny Sainte-Mère est célèbre pour son beurre AOP. C'est l'entreprise qui va bien, merci. Et si pour résoudre vos insomnies, on vous avait trouvé la solution, un masque d'hypnose made in France vous aide à vous endormir. On en parle dans La France qui bouge, c'est sur Europe 1.
Europe 1.
39-21, vous avez la parole comme chaque jour. Venez nous dire si vous faites attention à ce que vous achetez quand vous choisissez par exemple un sac, une ceinture. Regardez-vous, Anissa, la provenance. Vérifiez-vous que c'est bien du made in France.
Dites-nous tout ça, parlez-nous de votre maroquinerie. N'hésitez pas, Twitter, hashtag Europe 1. On lit vos questions, vos réactions, vos témoignages et puis on vous écoute au 39-21. C'est maintenant qu'il faut appeler pour pouvoir poser vos questions aux invités de Raphaël Duchemin.
C'est vrai que quand on pense maroquinerie, on pense cuir, mais vous allez voir que désormais, le spectre est en train de s'élargir. Pour accueillir nos invités à mes côtés comme chaque jour, Elisabeth Assayag. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Raphaël et bonjour à tous.
Et Laurent Chauin, DRH Monde de Mazars, c'est notre coach du jour.
Ouais. Bonjour Monde, bien sûr. All venu sans world. Sac d'ailleurs.
Et sur Europe 1 aussi. Bon. Si je vous dis maroquinerie, vous pensez sac, portefeuille, ceinture, cuir, tradition. Et c'est donc une entreprise familiale qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Philippe Serre.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous dirigez la maroquinerie qui porte tout simplement votre nom. Vous êtes la quatrième génération. Tout a commencé chez vous en 1927 dans le Tarn. Sauf qu'à l'époque, c'était les femmes, je crois, qui étaient aux manettes.
Tout à fait. C'est l'arrière-grand-mère qui a commencé par découper des semelles de chaussures. Et au fur du temps, ensuite, il y a eu la grand-mère qui a pris un peu la suite. Et ensuite, il y a ma mère qui a fait l'école de maroquinerie dans les années 60, ce qui a permis d'apprendre un peu plus sur le savoir-faire et de le faire perdurer et surtout de l'améliorer. Jusqu'à aujourd'hui, on a réussi à obtenir le label EPV, Entreprise du patrimoine vivant, et à essayer de toujours se monter en gamme avec des accessoires qualitatifs et des finitions haut de gamme.
Oui, on va évidemment en parler plus en détail. Sur les femmes, alors ça peut étonner, mais on est dans un contexte d'après-guerre. C'est la raison pour laquelle ce sont elles qui font la tannerie.
Pas la tannerie, ni tannerie, ni mijisserie. Nous, c'est la transformation de la peau.
Juste la transformation.
Tout à fait.
Ça veut dire quoi? On manque d'hommes, on manque de bras?
Il manquait des bras, tout à fait. Puis après, les femmes étaient restées à la maison. Donc, elles ont continué cette activité et elle a été améliorée progressivement.
Alors, vous l'avez dit, c'est votre mère qui a fait l'école de maroquinerie. C'est aussi la première, finalement, à décider de faire en sorte que les produits soient de meilleure facture. C'est ça vraiment qui a changé l'image de marque de votre maroquinerie?
Ça a commencé, ça a été les prémices, ce qui a permis de faire se monter en gamme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis après, avec le temps, il y a des maisons qui se sont intéressées à nous, c'est-à-dire qu'on a développé notre propre collection, qu'on a diffusée sur le niveau national pendant des décennies. Et après, progressivement, puisque l'activité a fallu la recentrer vers d'autres acteurs, on va dire, on s'est un peu stratégiquement, on a un peu changé le fusil d'épaule et on a classifié notre activité en deux grands pôles, c'est-à-dire la marque Philippe Serre qu'on essaie de diffuser au niveau national
en nom propre par le
réseau vente traditionnelle, c'est-à-dire foire exposition. Et ensuite, on a fait une deuxième activité, ce qu'on nous appelle la co-traitance, pas la sous-traitance, mais la co-traitance, puisqu'on est capable dans notre atelier de partir sur un croquis et à partir de ce croquis, concevoir, réaliser le modèle en conseillant les clients, bien évidemment sans vouloir changer la structure du modèle ni la configuration, mais en essayant de faire attention au budget qu'ils ont et en améliorant les matières et les composants pour arriver à faire un produit final haut de gamme.
Elisabeth, la filière cuir en France, ça représente quoi aujourd'hui?
Ce sont 4900 entreprises et 130 000 personnes qui travaillent. La filière génère 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires.
Et les sacs ?
Alors les sacs, l'industrie maroquinière française, elle est en croissance. Hein. De janvier à octobre 2017, c'était une croissance de plus de 6,8%. Le sac à main pour femmes, qu'on l'on connaît toutes, hein, représente les deux tiers de l'activité de l'industrie maroquinière française. Cette industrie a enregistré dans son ensemble un chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros en 2016, contre 2 milliards d'euros 5 ans plus tôt, rien que pour le sac à main.
Le coach Laurent Choin.
Bah d'abord, je voudrais saluer Philippe sur un point, c'est qu'il nous a fait une petite mouchoire ce matin. Vous vous souvenez de cette scène finale où vous avez le Jean-Louis Lutrier qui fait la route de loin. Je crois que vous êtes venu ce matin de Groyer, si j'ai bien compris.
Tout à fait.
Et voilà, donc ça c'est formidable, je vous imagine. Et dans le camion, vous aviez aussi les pots pour le salon, je crois.
Pour le salon du Made in France qui ouvre demain.
Alors, je vous reprends, on prend pas les pots, on prend les sacs finis.
Ah, les sacs finis, alors c'est encore mieux.
Pour mieux les voir pendant le salon.
Tout à fait.
Alors justement, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que ces industries-là, je les connais, j'ai une image très vague de cette profession, mais je suis sûr qu'il y a des zones dans le monde, la Vénétie par exemple, en Italie, la Toscane en partie. Et là, en découvrant votre métier pour l'émission, mais tout est très centré autour de Groyer. Alors, comment ça se passe en fait ? Vous êtes mis d'accord entre vous ?
Non, on a quand même une belle filière de cuir sur la région tarnaise, dans notre région Occitanie, puisque par chez nous, avec Mazamé, Groyer, qui ont été les capitales pendant un certain temps, capitale mondiale du cuir, où c'est qu'on travaillait la basane. Et tout autour de cette activité de basane, s'est développée progressivement toute une autre activité, la maroquinerie.
C'est quoi la basane ?
C'est la peau de mouton qui était tannée à l'époque pour faire, le plus connu, c'est les clubs qui étaient faits avec ce mouton. Voilà.
D'ailleurs, vous avez parlé tout à l'heure de mégisserie, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre des grosses peaux et des petites peaux, c'est ça ?
Tout à fait. Oui. Les tanneurs font les grosses peaux et les mégissiers font les petites peaux.
C'est ça.
Dites-moi, aujourd'hui, vous êtes 20, c'est ça, dans
votre
atelier. Vous avez été plus nombreux. Hein, je crois
qu'en
2008, vous étiez encore 49.
Tout à fait.
C'est un secteur où c'est difficile de résister ?
Ah ben, c'est un secteur qui est difficile de résister, puisque tout à l'heure, votre collègue citait une filière en augmentation de chiffre d'affaires qui était magnifique, mais malheureusement...
En croissance.
Heureusement, on va dire, mais malheureusement, puisque dans ces chiffres, ce qui tire le haut du panier, ce sont les grandes structures qui ont pignon sur rue. Et nous, les petits, il faut sortir la pioche, la pique et avancer progressivement parce qu'on est sur des pentes glissantes. Et il faut se remettre perpétuellement en question pour pouvoir survivre et exister.
À cause notamment de la concurrence étrangère
La concurrence étrangère, on en parle depuis des décennies, mais c'est un réel problème, puisqu'aujourd'hui, un portefeuille ou un sac, si vous parliez de sac, un sac, ça peut arriver au Havre entre 10 et 15 euros, et qu'on retrouve sur les marchés à des prix défiant toute concurrence.
Ça arrive de où quand ça arrive au Havre ?
Ça arrive d'Asie. Voilà.
Et c'est ça qui vous fait mal aujourd'hui ?
Les
grands groupes ?
Non, les grands groupes, ils sont sur une ligne, une stratégie bien spécifique. Très luxe, ce qui est tout à fait logique et normal. Après, moi, je vais dire, c'est vrai qu'il en faut pour toutes les bourses. Mais c'est vrai que tous ces produits qui arrivent d'Asie à des prix défiant toute concurrence, aujourd'hui, quand on n'a pas un grand nom, on est hyper concurrencé par ça. Et c'est difficile de se faire une petite place avec tous ces gens d'export qui arrivent et qui arrivent progressivement à faire des marges confortable et pouvoir faire des publicités et attirer le chaland, quoi.
Oui, c'est plus facile pour eux que pour vous, on le comprend bien. On reste ensemble, on continue à parler de la maroquinerie française sur Europe 1.
Il est 13h09.
Europe 1.
Alors, il y a les marques qui ont une histoire et puis les plus jeunes qui se font leur place petit à petit sur le marché. C'est le cas de la Cartablière. C'est ça, la France qui bouge. À tout de suite.
La France bouge tous les jours entre 13h et 14h sur Europe 1. Et grâce à vos invités aujourd'hui, Raphaël Duchemin, on parle de la maroquinerie française, bien évidemment, entre tradition et innovation. Vous pouvez réagir à cette émission. N'hésitez pas à poser toutes vos questions aux invités de Raphaël Duchemin et venez nous dire à quoi ressemble votre maroquinerie. 3921, c'est le standard d'Europe 1 et Twitter, hashtag Europe 1.
Toujours avec Elisabeth Assayag à mes côtés et avec notre coach du jour, Laurent Choin. Quand on parle cuir, vous allez vite comprendre qu'on est sur des savoir-faire, des techniques qu'on maîtrise souvent dans une même région, celle de l'Occitanie. Et c'est de nouveau à Groyer, hein, c'est comme ça qu'on dit que nous retournons, puisque c'est là aussi qu'est installée Sophie Lemoyle. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez fondé la Cartablière il y a 6 ans déjà. Vous aviez envie de travailler le cuir. Pourquoi ?
Alors oui, moi j'ai une formation dans le cuir, d'ingénieur chimiste cuir. J'ai eu la chance de travailler dans une tannerie de reptiles et puis dans une grande maison
pour qui faisait RMS, hein, c'est
voilà,
ça,
de la maroquinerie.
Du côté des ateliers de Pantin.
C'est ça, au service achat en fait et développement des nouveaux cuirs, des nouvelles collections. Et puis le chemin se faisant, j'ai eu envie de lancer ma petite entreprise et la carte tablière est née de ce besoin que j'avais en tant que femme active qui se déplaçait énormément pour son travail, de pouvoir transporter un ordinateur en étant assez élégante et assez pratique.
Oui, ça manquait finalement dans l'offre.
Voilà, c'est ça. C'était une envie, un besoin que je rencontrais.
Alors, vous êtes en particulier spécialisée sur le cuir pailleté, on peut le dire. On a quelques modèles qui sont avec nous dans le studio d'Europe 1. Si vous nous suivez sur europe1.fr, évidemment, vous les verrez. Ils sont là, ils sont magnifiques. Ce qui frappe, effectivement, c'est quand on a cet objet, c'est un très bel objet, la souplesse et le rapport qualité-prix aussi. On se rend compte que finalement, on peut avoir du cuir français de très belles factures à des prix qui restent très abordables.
En fait, toute l'idée, c'est de concevoir des modèles assez simples qui vont être fabriqués assez rapidement, ce qui fait qu'au final, le consommateur va pouvoir acheter un beau produit bien fabriqué, avec de belles finitions, mais à un prix tout à fait abordable.
Ça signifie que la pochette, le porte-monnaie qui sont avec nous, aujourd'hui, tout vient de France. Chaque petit détail est fabriqué ici en France.
Non, le cuir vient d'Italie. Alors, j'adorerais l'acheter en France, mais je l'achète en Italie.
Pourquoi est-ce que vous ne l'achetez pas en France?
Parce que les Italiens ont une offre sur le cuir fantasy beaucoup plus développée. Les Français vont être excellents sur des cuirs de luxe, traditionnels, classiques, alors que les Italiens ont un choix de fantasy beaucoup, beaucoup plus important.
Elisabeth, on est en train de parler de Groyer. Hein. Vous êtes tous les deux originaires, en tout cas basés dans la même région. C'est cette région-là qui domine ou pas quand on parle de maroquinerie et de sacs?
Rien qu'en région Auvergne-Rhône-Alpes, hein, c'est la première région productrice d'articles de maroquinerie de toute la France.
Ah oui, donc c'est pas l'Occitanie?
Non, ce n'est pas l'Occitanie. Là-bas, on compte 4300 salariés. Ça s'explique aussi parce qu'il y a plusieurs établissements de la société des ateliers Louis Vuitton. C'est pour ça aussi que c'est là-bas qu'il y en a le plus. Ensuite, vous avez les Pays de la Loire avec 2300 salariés qui travaillent dans cette filière. La Bourgogne-Franche-Comté avec 2000 salariés et le Centre Val-de-Loire avec 1700 salariés. En Méditerranée, il y en a beaucoup moins. Et alors, je peux vous dire, Raphaël, ça va peut-être vous décevoir, vous. En Corse, il n'y a aucun établissement qui fabrique des sacs
en cuir. C'est comme ça, hein, ils savent faire d'autres choses.
Ah oui, des belles choses d'ailleurs.
Dites-moi, il y a une AOP, Groslier, qui est en train de se mettre en place. Parce que c'est important justement de fédérer les artisans autour d'une appellation.
Mais oui, puisqu'en même temps, comme on disait tout à l'heure, il y a tout un vivier qui le permet. Vous parliez des tanneurs mégissiers, vous parliez des outilleurs, des produits chimiques, des fabricants, des transformateurs de maroquinerie. Donc on a absolument le cursus complet à l'intérieur de notre région. Et c'est ce qui permet de tendre vers une AOP et d'essayer de la mettre en place maintenant le plus tôt possible.
C'est quelque chose qui peut vous aider, Sophie Lemoyle, cette AOP?
Bien sûr, de toute manière, déjà là, tout ce réseau d'entreprises de la filière cuir de Groyer nous permet de communiquer, que les gens entendent parler de nos savoir-faire, de nos métiers, et puis de montrer voilà, que c'est une petite ville qui bouge et où il se passe des choses point de vue cuir.
Que dit le coach?
Je dis que c'était à la fois un passé glorieux et un avenir formidable. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, par exemple, il y avait énormément de concentration artisanale et non pas industrielle. C'est-à-dire des gens qui, au même endroit, faisaient des métiers proches, pas forcément les mêmes, et qui, au lieu d'avoir une logique de compétition entre eux, avaient une logique de coopération. On parlait tout à l'heure de l'Italie, les Lanifici, c'est les gens qui faisaient du tissu, mais ils habitaient les mêmes villages, etc. Ce qui permet les AOP, finalement. Et je trouve que ce que vous faites est très, très indicatif, je pense, de ce que seront les structures des organisations dans le 21e siècle, c'est-à-dire de revenir à des modèles plus petits, peut-être aussi, plus artisanaux, avec de la très haute qualité, mais où les gens coopèrent beaucoup. Et c'est, me semble-t-il, votre cas.
Sophie? Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Laurent?
Oui, exactement. C'est un très beau comment dire, toutes ces entreprises existaient, le fait qu'elles se rassemblent et qu'elles arrivent à travailler ensemble, à participer à des salons ensemble, hein, bah, c'est aussi un peu, on expose côte à côte avec un autre maroquinier sur le salon du Made in France, et forcément, on sera forcément beaucoup plus visible à plusieurs.
On reste ensemble, on continue à parler maroquinerie sur Europe 1.
Il est 13h18.
Europe 1.
Et si la maroquinerie aujourd'hui n'était pas faite qu'en cuir, d'autres matières viennent le remplacer, comme chez Fantôme. Je ne vous en dis pas plus. À tout de suite sur Europe 1.
Jusqu'à 14h, la France bouge sur Europe 1 et vous pouvez continuer à réagir sur les réseaux sociaux hashtag Europe 1 pour nous parler de votre maroquinerie. Est-elle française? Vous pouvez continuer à appeler le 39 21, c'est le standard d'Europe 1, 50 centimes la minute. On parle de la maroquinerie française à l'occasion du salon Made in France qui commence demain, Raphaël.
Effectivement, et nous sommes toujours avec Elisabeth Assayac, avec Laurent Chauhin pour parler de cette maroquinerie française, avec nos invités aussi, Philippe Serre, directeur de la maroquinerie Philippe Serre, et Sophie Lemoyle, fondatrice de La Carte à Bolière. Aujourd'hui, vous avez évidemment tous remarqué que la société évolue, que les choses sont en train de changer, qu'on réclame de plus en plus de nouvelles matières. Bonjour Jenny Burke.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la cofondatrice de Fantôme.
Oui, c'est ça.
Alors, vous avez créé votre marque avec vos parents, je crois que c'était
exactement
il y a 4 ans, du côté de Bordeaux.
Oui.
Parce que votre père a un des plus gros magasins Made in France de Bordeaux.
On trouve de France
tout,
même.
De France.
Oui, voilà, c'est ça. Donc, on a monté une boutique d'abord en famille. Donc, on a vu pas mal de choses qui se faisaient en France, etc. Et on a eu un pari assez fou de monter donc un atelier de maroquinerie, mais sans cuir.
Alors,
donc,
sans cuir, ça veut dire que le sac qui est avec nous, là, ouais, par exemple, à côté de nous, dans le studio d'Europe 1, vous le voyez si vous nous suivez sur europe1.fr, il est en quoi? En chambre à air recyclée?
Exactement, chambre à air de vélo recyclé. Donc, on récupère les chambres à air auprès des réparateurs de vélos. Donc c'est des chambres à air qui ont déjà eu une première vie, et donc nous on va avoir tout le travail de tri, de nettoyage et de confection.
Comment vous faites? Comment vous faites, franchement?
Tout simplement, en fait, ça fait un petit passage en machine à laver, on va les fendre, on va vraiment regarder à l'œil. C'est beaucoup beaucoup de travail manuel, c'est très simple mais c'est beaucoup de temps. Et ensuite, on fait tout, donc le design, la confection, la vente. On est vraiment une toute petite boîte, mais super motivée et un peu fou quand même, je pense.
En 4 ans, oui, le concept a commencé à se faire connaître, je suppose. Oui. Vous en vendez combien des sacs en chambre à air recyclée?
Alors, j'ai vraiment pas les nombres en tête, mais en fait, on a un système où on numérote nos sacs.
Oui.
Donc, en fait, on n'a pas vraiment de collection.
Ça veut dire que chaque sac est unique aussi?
Exactement. Comme chaque sac est unique, vu que les chambres à air vont être différentes, donc des fois, on va avoir des inscriptions, même parfois des rustines, parfois juste la chambre à air. On sait où on en est en fait dans les modèles. Donc les modèles perdurent, enfin continuent vraiment à être fabriqués tant que la clientèle désire en avoir. Donc il y a des sacs qui en sont à 500, ouais, 500 pièces, même plusieurs. Donc voilà.
Elisabeth, oui, on a beaucoup d'autres matières finalement qui remplacent aujourd'hui le cuir traditionnel.
Bah oui, vous avez par exemple les peaux de poisson. Eh oui, les peaux de poisson qui sont censées finir à la poubelle. Il y a par exemple une entreprise en Gironde qui recycle les peaux de poisson. Ils en font un cuir doux, un cuir résistant. L'entreprise s'appelle Fémer, F-E-M-E-R, comme Fémer, fait maison, fait des produits,
oui,
de la mer.
Qui vient
quoi,
de la mer, oui.
Qui vient de la mer. Ces peaux de poisson, c'est une matière première qui n'avait pas été exploitée jusqu'à présent. Et ce sont tout de même 800 tonnes par an. Vous avez aussi le cuir d'ananas. Le principe, c'est d'extraire les fibres des feuilles d'ananas pour en faire un tissu robuste. Il faut environ 480 feuilles, c'est-à-dire 16 ananas, pour fabriquer 1 mètre carré de textile qui pourra un jour servir à fabriquer des sacs à main, des vestes ou encore des chaussures.
Que dit le coach ?
S'interroge le coach, parce que est-ce que derrière c'est une intention qui est de nature écologique, c'est-à-dire de se dire on va pas travailler sur de la matière animale, ou est-ce qu'en réalité c'est peut-être plutôt la volonté de résoudre un défi intellectuel?
C'est plein de choses à la fois. On est vraiment vraiment convaincus. Le défi était vraiment de faire de la maroquinerie sans matière d'origine animale. Donc maintenant le mot est connu, c'est donc de la maroquinerie végane, parce qu'il n'y a pas vraiment de terme en plus pour de la maroquinerie sans cuir, parce que logiquement dans le terme maroquinerie, ça implique que ce soit du cuir, mais voilà. Donc et aussi un défi un petit peu plus de design, donc vraiment recyclé. Avec une matière qui est très peu connue, qui est très peu utilisée, mais qui est super robuste et qui résiste dans le temps de folie. et aussi vraiment un caractère écologique du fait de qu'on récupère quelque chose qui est normalement destiné à l'incinérateur.
Vous récupérez aussi la feutrine, hein, je crois.
Alors la feutrine, non, la feutrine c'est une matériau qui va être fabriqué, mais on est maintenant à 50% de fibres recyclées. D'accord. Dans la feutrine qu'on utilise. Parce que, pareil, on n'utilise pas de feutrine d'origine animale, donc sans laine. Donc on essaye d'être au plus recyclé, et la feutrine va bientôt être à 100% recyclée.
Laurent ?
Comment on peut être sûr aussi qu'il y a quand même des propriétés de... qui ne vont pas altérer la santé ni rien. Parce que là, finalement, vous nous expliquez, ça, vous l'avez fait dans la machine à laver, dans le truc, donc c'est un peu artisanal là aussi.
Oui.
Donc, c'est quoi l'environnement un peu de sécurité autour de vos produits ?
Alors, ça, c'est vraiment encore très flou. Donc, les personnes qui ne souhaitent pas porter de caoutchouc, on les déconseille, clairement. Nous, maintenant, on a plus de 4 ans de recul et on sait qu'on les travaille tous les jours. On n'a même développé aucune allergie, etc. Et bah, je veux bien même un appel parce que le syndicat de caoutchouc ne veut pas me répondre à ce sujet-là. Donc, si jamais quelqu'un veut bien me répondre sur, justement, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut conseiller.
On va relayer votre appel,
ce serait vraiment super intéressant d'en savoir plus.
C'est important. Vous réagissez comment, vous qui êtes les acteurs traditionnels, finalement, de ce secteur, à l'arrivée, effectivement, de ces nouvelles matières dites véganes, que ce soit les chambres à air ou autres. Comment est-ce que vous vous positionnez ? Est-ce que c'est une concurrence ? Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde sur le marché, Philippe Serre ? Sophie Lemoyle ?
Moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde sur le marché. Après, il faut quand même pas oublier que le cuir, un animal, il n'est pas élevé et abattu pour sa peau. Il est élevé et abattu pour être mangé. Et donc, le cuir est vraiment un sous-produit de la chaîne alimentaire.
Il n'y a pas de culture spécifique d'animaux à destination de la maroquinerie ?
Alors, le crocodile, oui. Les peaux de vison pour la fourrure,
oui,
mais voilà, les peaux de serpents, certains reptiles,
mais les
bovins, les voilà, c'est vraiment. Donc on est quand même sur une la fabrication du cuir, c'est quand même donner une seconde vie à un animal.
Philippe Serre.
Tout à fait, c'est ce que je voulais dire, c'est exactement ça. Après, au niveau, vous parliez de cuir de poisson, etc. On en travaille déjà, ça se fait. La problématique numéro un, c'est la communication de nos petites structures pour essayer de faire vivre ces matières-là. Vous parliez de cuir d'ananas, on est en train d'essayer d'y travailler. Pour le moment, on a des difficultés pour amener des finitions hyper haut de gamme, puisque c'est sur des bases synthétiques, où c'est qu'on a des problèmes d'accroche pour monter les produits, pour essayer d'amener une qualité très affinée, comme on pourrait le faire avec le cuir. Donc on est en train de travailler sur tous ces produits et d'améliorer.
Vous n'excluez pas cette innovation ?
Ah non, c'est d'ailleurs...
Tout est bon à prendre, finalement.
Nous, nos petites structures, ce qui est intéressant chez nous, c'est qu'on est hyper novateurs, quoi. On est tout le temps en train de recherche. Moi, je suis en train de penser à mes gars qui sont à l'atelier cet après-midi. Je sais très bien que mes chefs d'atelier sont en train, notamment José, est en train de se mettre à la rate au bouillon pour trouver des solutions, pour trouver des produits techniques, notamment sur des cuirs d'ananas, sur des cuirs à base de pommes. Donc, on est en train de travailler sur tout ça. Et pour le moment, on n'a pas le résultat qu'on escompte.
On continue à débattre dans un instant. Vous restez avec nous sur Europe 1.
Il est 13h28.
Europe 1.
On vous attend, 39-21. Venez réagir. Dites-nous si vous achetez français, si vous regardez aussi précisément les étiquettes. Ça nous intéresse. C'est la France qui bouge. À tout de suite.
Jusqu'à 14h, la France bouge sur Europe 1. On parle de maroquinerie aujourd'hui et de maroquinerie française, bien évidemment. Le salon Made in France commence demain jusqu'à lundi. Vous êtes nombreux à réagir au 39-21. C'est le standard d'Europe 1, 50 centimes la minute. Et sur les réseaux sociaux, Raphaël, des questions à vos invités avec le hashtag Europe 1.
Évidemment, nos invités, Philippe Serre, directeur de la maroquinerie Philippe Serre. Les sacs de Philippe Serre sont là si vous nous suivez sur Europe1.fr. Vous allez voir les couleurs, c'est magnifique. Et la finition, évidemment. Sophie Lemoyle est avec nous aussi, fondatrice de la carte tablière, et Jenny Burke, cofondatrice de Phantom, les sacs en chambre à air recyclés. On a effectivement, toujours évidemment à mes côtés, Elisabeth et Laurent,
Laurent sur les sacs.
Coach. on a pas mal de questions, notamment une question qui nous vient de Twitter, Ron Burr, qui nous dit « J'ai de la maroquinerie Longchamp en regardant l'étiquette. Moi, je pensais acheter français. En fait, l'étiquette, il y a marqué Chine dessus. Alors, français, faux français, pas français, qui a envie de répondre ? Philippe Serre ?
Oui, si vous voulez. Donc, vrai ou faux, en tout cas, il y a le mérite que sur le produit que le monsieur a acheté ou la dame a acheté, c'est marqué Made in China, donc l'origine est claire. Quoi.
Oui, la marque Longchamp est française, mais la production est faite en Chine.
Un peu, je pense qu'ils ont quand même une partie qui se produit en Europe et en France. Donc ça, on ne peut pas leur enlever. Et après, il y a l'autre partie qui peut être faite en Asie. Alors, c'est la complexité du débat, du sujet
Made
in
France. Parce que ça signifie pas que la peau vient de Chine, ça signifie que le sac a été fabriqué en Chine.
Mais c'est un peu très confus là.
D'accord.
C'est un peu très confus. Donc, c'est quoi qui est la part du vrai et du faux? C'est conçu, mais on appelle ça concevoir ou donner l'idée, mais après c'est transformé en Asie.
Vous êtes en train de nous dire qu'en gros, sur l'étiquette, il faudrait qu'on ait la marque est française, le design est français, la réalisation est faite à tel endroit, la peau vient de tel endroit. C'est ça qu'il faut faire aujourd'hui.
Oui, peut-être, mais c'est hyper complexe à mettre en œuvre. Donc, moi, je sais que pour mes produits ou nos produits que nous avons autour de la table, on n'a pas d'inquiétude, puisque de même, vous voulez venir dans nos ateliers, les portes sont ouvertes, vous pouvez venir à tout moment voir comment ça se passe, il n'y a aucun souci. Après,
Jenny Burke,
nous par exemple on essaye d'avoir toutes les parties ajoutées, donc tout ce qui va être sangle, matière plastique ou métallique de fabrication française. Mais on
sait. Vous essayez, ça veut dire que vous ne pouvez pas y arriver sur tout.
Il y a des choses qui ne se font plus en
France. Pourquoi ?
Ou les dernières usines ont fermé. Alors il va falloir des quantités un petit peu trop grandes pour que l'entreprise nous assure que ça va être fabriqué par un atelier français.
Laurent Choin.
Mais il y a quelque chose qui me frappe, et je ne veux pas réconcilier tout le monde, mais il y a un point commun dans tous ces métiers.
Bien sûr.
C'est que finalement vous êtes sur ce qu'on appelle des compétences tacites. C'est-à-dire que dans le boulot, il y a des compétences qui sont explicites et du coup elles sont faciles à copier. Alors que les compétences tacites, vous parliez tout à l'heure, il faut avoir l'œil. Hein, en gros. Et il faut autant avoir l'œil dans le métier de Sophie, de Philippe, dans le vôtre, Jenny. C'est-à-dire qu'il y a ça aussi, je pense. Et donc, c'est peu copiable. Et c'est l'élément qui, quelque part, vous rassemble, à mon avis, sur cette capacité d'être dans des métiers qui restent des métiers de savoir-faire assez peu robotisables, pour le dire comme ça.
Tout à fait.
On a une auditrice qui nous a appelé au 3921. Je voudrais qu'on l'accueille ensemble. Bonjour, Myriam.
Bonjour.
Vous êtes à Toulouse, Myriam. Vous avez été vendeuse en maroquinerie pendant 2 mois.
C'est ça, donc assez peu de temps justement, parce que en passant de l'autre côté du miroir, on s'aperçoit qu'on n'est pas tout à fait dans ce qu'on imagine.
C'est-à-dire ?
Alors justement, en fait, pour reprendre le commentaire de votre auditeur sur Twitter qui parlait d'une certaine marque française, effectivement, j'ai travaillé pour eux. Et en tant que vendeuse, en tant que conseillère de vente, ce qui nous est demandé beaucoup, effectivement, les clients, ça les intéresse de regarder l'étiquette et de savoir si on est sur du Made in France. Ça les intéresse, ça c'est sûr. Par contre, en fait, ce qui nous est demandé, c'est effectivement de les... Ça va être un peu péjoratif, mais de les saouler un peu de parole en leur présentant l'histoire de la ligne, du modèle, en leur parlant de la poterie, de la qualité, de la manière dont elle a été travaillée. En fait, pour que la question du lieu de fabrication ne se pose pas à eux et que dans leur tête, ça devienne évident que l'image du luxe qu'ils véhicule également l'image du Made in France. Et en fait, en réalité, les modèles des pots, les poteries ne sont pas françaises, elles sont en majorité italiennes. Mmh. Et c'est l'assemblage. Il est fait pour répondre à votre question, il est pas du tout fait en majeure partie en France. Il est fait en majeure partie en Tunisie et en Chine. Pour conclure, ce qu'on nous demande, c'est de véhiculer une image de made by, qui elle est bien française. Et non pas de made in, parce que si on s'intéresse au made in, on n'est pas dans le made in France.
Oui, c'est intéressant ce que vous nous dites. Merci Myriam de votre appel.
Mais par ailleurs, quand même,
Elisabeth, préciser les choses sur Longchamp, puisque c'est de Longchamp qu'on est en train de parler.
Pour Longchamp, effectivement, ils produisent, vous disiez, en Tunisie, mais aussi à l'île Maurice. Mais là, par exemple, il y a à peine il y a un mois et demi, ils ont ouvert un nouvel atelier en Vendée. C'est le 6e atelier Longchamp. Ils ont investi près de 11 millions d'euros pour cet atelier de production de 7 000 mètres carrés, donc il faut aussi savoir équilibrer les choses. Tout n'est pas fait en Asie ou à l'île Maurice ou en Tunisie.
Oui, c'est ce que disait Philippe d'ailleurs. Il y a aussi une partie fabriquée
en France.
Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on peut rapatrier certaines marques, faire en sorte que celles qui allaient fabriquer ailleurs reviennent et fassent du vrai Made in France, Philippe Serre, Sophie Lemoyle, Jenny Burke?
Nous, pour notre petite histoire, on a commencé en Bulgarie. Et on a pris le défi de tout faire en France. Notre matière étant un petit peu complexe, les portes sont fermées. Donc on travaille la chambre à air de vélo, les portes sont fermées parce que c'est pas du cuir, c'est pas du sky, c'est pas tout ça. Donc en fait, on s'est auto-formé et on a monté notre atelier en France.
Philippe ?
Moi, je pense que oui, les grosses structures ont les moyens financiers pour pouvoir revenir. Malheureusement, on a vu une petite émission qui est passée sur une télé française où c'est qu'il y avait des des montagnes de trésorerie qui s'évaporaient de la France. Je dis pas qu'il faut tout mettre de côté, mais s'il y en avait un minimum qui revenait un peu sur le marché national, je pense que ça arrondirait beaucoup d'angles.
Vous êtes d'accord, Sophie Lemoyle?
Oui, moi je suis d'accord. Puis je le vois vraiment au niveau de mes clients. Ça évolue et quand on commande des produits, on est obligé de les commander un an et demi à l'avance, sa collection, parce que quand elle est faite à l'étranger, moi mes clients, ils peuvent commander 2 mois à l'avance et ils reçoivent leur collection à temps. Donc il y a quand même un changement de société aussi qui fait que on devrait revenir vers ça.
Et je voudrais terminer avec un message de Myriam qui nous dit « Je suis architecte de formation. En 2017, j'ai créé une SAS sur le cuir. J'ai eu un coup de cœur par rapport au cuir français. Je rachète au kilo les cuirs et nous les recyclons. J'utilise les cuirs en upcycling. » On en parlait justement.
Allez, on va envoyer nos sacs.
En donnant une seconde chance aux cuirs qui ne sont pas utilisés dans leur intégralité. Je fais une maroquinerie personnalisée pour mes clients. J'achète des produits français. Il faut valoriser ce savoir-faire made in France. C'est d'ailleurs ce que nous essayons de faire ici tous les jours. Merci à tous les trois d'être venus sur Europe 1.
Il est 13h39.
Europe 1.
Il y avait Isigny et il y avait Sainte-Mère. Aujourd'hui, les deux coopératives ne font plus qu'une. Sainte-Mère, Isigny. Isigny, Sainte-Mère, c'est l'entreprise qui va bien, merci.
La France bouge tous les jours de 13h à 14h sur Europe 1 et tous les jours vous nous donnez du baume au cœur, Raphaël, avec une entreprise française qui va bien et celle d'aujourd'hui va parler à tous les gourmands qui nous écoutent.
Oui, je crois même que vous en avez dans votre réfrigérateur.
Ah bah oui. Quand on est normande, c'est normal.
C'est Isigny Sainte-Mère. Bonjour Daniel Delahaye.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Je vous présente Elisabeth Assayag qui est à mes côtés tous les jours.
Bienvenue.
Et notre coach du jour, Laurent Chauhin. Vous dirigez cette très très belle entreprise depuis des années maintenant, hein, vous y êtes depuis 43 ans, c'est bien ça?
Exact.
Comme son nom l'indique, c'est en Normandie, à Isigny, qu'elle est implantée. Avant, c'était d'un côté Isigny, créé en 1932, de l'autre Sainte-Mère, plus ancienne, hein, 1909. Qu'est-ce qui a fait que les deux se sont réunis?
Mais écoutez, les deux entreprises se ressemblaient. Elles se ressemblaient au niveau de l'éthique, elles se ressemblaient au niveau des produits, elles se ressemblaient au niveau des hommes. Et à un certain moment, lorsqu'on s'est déployé sur l'export, plutôt que d'y aller séparément, on a pensé qu'en se mettant ensemble, on serait plus fort et qu'on irait plus loin.
Et ça, c'était dans les années 80?
80, exactement.
Aujourd'hui, vous représentez, alors dans le Calvados, 900 emplois, c'est ça?
1000.
1000. Et vous êtes reconnu pour, notamment, j'ai envie de dire, votre AOP beurre d'Isigny, dont nous parlait il y a un instant.
Le meilleur.
Anissa, qui est normande, élevée au
beurre d'Isigny. Et à la crème dans le biberon.
C'est un savoir-faire vraiment particulier, c'est une histoire aussi.
Bien sûr, c'est une histoire, mais c'est une histoire qui résulte d'un savoir-faire. Si vous voulez, c'est savoir-faire et terroir.
Alors racontez-nous le savoir-faire. Donc, qu'est-ce qu'il a de particulier?
Je dirais, je vais commencer par le terroir peut-être. Hein. Le terroir, donc la région d'Isigny, ce sont des régions basses et humides. Donc ce sont des régions alluvionnaires, extrêmement riches, où les eaux viennent se jeter avant d'aller dans la mer. Et donc ce sont des zones alluvionnaires, extrêmement riches, et l'herbe y est extrêmement fertile. On dit chez nous en Normandie, quand on est un peu optimiste, qu'on voit l'herbe pousser. Enfin, ça, c'est un petit peu exagéré. Ouais. Et donc, c'est une herbe extrêmement riche en oméga-3, donc qui est très grasse, qui est extrêmement appétante. Et les animaux donnent, avec cette alimentation, un lait de très haute qualité. Donc, qui se définit déjà comme le terroir. Hein, on peut déjà.
C'est ce qui fait qu'il n'y a que très peu de communes, hein, finalement, qui peuvent prétendre.
193 communes.
À cette appellation d'origine
193
protégée.
Communes. Et donc, à partir de cela, si vous voulez, à partir de cette première matière première d'exception, encore faut-il savoir la transformer. Donc, elle est transformée, d'une part, par le savoir-faire qui a été acquis au cours de ces années.
C'est quoi? C'est un geste particulier? Des gestes particuliers?
C'est pas seulement des gestes, c'est aussi une méthode de fabrication et de fermentation, si vous voulez. Puisque la crème doit être maturée. Ça veut dire qu'elle mûrit, en quelque sorte, par les germes naturels qui sont contenus dans la faune et la flore, par une maturation. Donc, la crème, pendant toute une nuit, fermente en quelque sorte, un petit peu comme un yaourt si vous voulez, et elle devient épaisse, donc il y a une modification des acides gras, de la composition, et en même temps les ferments d'arômes. Donc tout ça bien sûr c'est naturel, hein, c'est que des ferments naturels.
Il y a un cahier des charges qui est très très précis, extrêmement rigoureux.
Oui, c'est un cahier des charges extrêmement précis et qui s'inspire du passé, parce que pour avoir une appellation d'origine, il faut, comme je vous disais, avoir un terroir, avoir une histoire et avoir un savoir-faire. Donc le cahier des charges définit tout ça.
Que dit le coach ?
Comment vous luttez parfois contre la confusion qui peut être entretenue avec des scandales qui ont pu toucher des groupes laitiers ? Vous réussissez relativement à préserver une marque et finalement une reconnaissance de cette marque très particulière. Mais est-ce que c'est quelque chose que vous faites un peu naturellement en disant « nous on croise les doigts pourvu que ça ne nous tombe pas dessus » ou est-ce qu'il y a une stratégie aujourd'hui, qui correspond d'ailleurs aux valeurs que vous évoquiez, de positionnement de Isigny ?
Donc, déjà, je dirais que l'appellation d'origine contrôlée préserve,
protège,
déjà, parce qu'elle évite de déraper et de partir vers d'autres choses qui sont difficiles à contrôler de par nous-mêmes. Je dirais qu'elle nous ramène dans la règle, elle nous ramène dans la loi, et pour avoir cette appellation d'origine, on doit exécuter ce cahier des charges et s'y tenir, si vous voulez.
Moi, j'ai été frappée par quelque chose, Daniel Delahaye, c'est que aujourd'hui, le produit qui est quand même un produit français extrêmement connu, qu'on aime tous, c'est surtout l'export qui se vend le plus. C'est pas chez nous, c'est pas nous les Français qui l'achetons le plus, c'est l'export votre plus gros chiffre.
Oui, mais je pense pas qu'on puisse le dire comme ça, si vous voulez, parce que l'export s'appuie sur le socle de la France, si vous voulez. Et pour être bien à l'extérieur, il faut être bien chez soi. Si vous voulez. Donc, il faut que la marque soit visible, qu'elle soit consommée, que les consommateurs français aient confiance. Et c'est à partir de cette confiance que les étrangers regardent et prennent le produit. Donc, ça fait partie de mes objectifs de ne jamais oublier la France, parce qu'effectivement, le produit étant très demandé, se développe une certaine rareté autour du produit, mais il faut savoir raison garder, il faut aussi que le produit soit bien chez nous pour être bien à l'extérieur.
La coopérative Isigny Sainte-Mère, c'est l'entreprise qui va bien. Merci, merci Daniel Delahaye d'être venu nous en parler aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h47. La France bouge tous les jours jusqu'à 14h sur Europe 1 et tous les jours juste avant 14h, Raphaël Duchemin avec notre coach du jour Laurent Chauhin et votre complice Elisabeth Assayag. Vous nous présentez la solution du jour et celle-ci va rendre nos nuits plus belles.
Oui, si vous avez des troubles du sommeil comme un Français sur trois, eh bien nous avons trouvé la solution. Elisabeth, c'est un casque connecté français.
Mais tout à fait, on a tous envie de dormir sereinement. Alors ce casque connecté qui s'appelle Hypnos HYPNOS est fabriqué à Avignon et il permet de rééduquer votre sommeil. Il y a des stimuli, des petites lumières LED qui permettent de vous aider à vous endormir. Le tout grâce à une connexion Bluetooth. Il vous propose les yeux fermés d'arriver à un état d'hypnose. On branche les écouteurs et une voix vous guide.
Alors avant de se laisser guider par la voix, je voudrais signaler qu'il est avec nous, évidemment, sur Europe 1. Si vous nous suivez sur Europe1.fr, il est là et on va même peut-être avoir une démonstration d'Anissa. Bonjour Guillaume Gauthier.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur de, alors comment on dit, Dreamins ?
C'est ça, Dreamins avec 3 Z.
Avec 3 Z pour le Z quand on s'endort. Vous avez apporté, on dit casque, on dit masque.
On dit masque, c'est pour ça que j'allais vous reprendre.
Oui, on dit masque. Qu'est-ce qu'il fait ? On s'endort comment avec ce masque ?
Alors on s'endort très bien. L'intérêt du masque en fait c'est que...
Anissa est en pleine démonstration, j'espère qu'elle va rester avec nous.
Pour donner rapidement quelques mots de contexte, aujourd'hui on vit dans une société qui prône le confort individuel, le bonheur, et malgré tout on allonge la durée de vie mais on vit pas forcément mieux. Et on tente de résoudre ça en prodiguant, en tout cas en donnant des médicaments à outrance. Et notre solution, en fait, l'idée, c'est vraiment de donner à tout un chacun, justement, l'hypnose, en tout cas l'auto-hypnose, avec ce masque-là, qui est le premier masque d'hypnose connecté, qui va permettre, justement, de pouvoir travailler sur son stress, travailler sur son sommeil, donc mieux dormir, réduire son stress, travailler sur sa motivation, sur les addictions, tout ce qu'on peut faire, en fait, en toute autonomie, avec l'hypnose. À savoir qu'on ne se substitue pas à un thérapeute. L'idée, c'est vraiment de proposer une alternative ou un complément aux médicaments ou tout simplement à rien du tout. Donc justement pour pouvoir en toute autonomie profiter de ses bienfaits.
Elisabeth, il est adapté à tous les âges. On peut le donner par exemple à un ado qui n'arrive pas à s'endormir.
Ouais, ou... nous on dit à partir de 5 ans en fait, et on le voit sur beaucoup d'enfants qui ont de l'hyperactivité. Donc qui tiennent pas en place. Le simple fait d'avoir le masque déjà sur soi donc bloque un sens, c'est-à-dire qu'on se retrouve simplement sans la vue, donc on est déjà capté. Et ensuite, les sessions qui sont à l'intérieur, donc quand on a le masque, quand on achète le masque, l'application...
Il faut se connecter au téléphone, hein, évidemment. Ouais.
Pour l'hypnose, oui, l'application est gratuite.
Donc
et
on télécharge l'appli.
Exactement. L'application est gratuite, comme je
et
le disais. Toutes les sessions
on va avoir
sont,
une voix qui va nous parler,
il y a une voix qui vous guide avec une ambiance spatialisée et le masque, lui, va se synchroniser pour sublimer le récit avec des lumières et des vibrations pour vous immerger dans l'état d'hypnose, en tout cas, le plus approprié à l'objectif que vous aurez choisi.
Le coach ?
Dans toute bonne émission, il faut une question stupide.
Allez-y.
Moi, mon sujet, c'est toujours de me dire, mais comment on sort de l'hypnose ? Or là, puisque vous proposez un masque, c'est individuel. Mm-hmm. Donc là, on vient de parler de comment on rentre dans l'hypnose. Moi, ça, je trouve ça très facile ou simple. Mais une fois que vous êtes dedans, comment vous sortez ?
Alors, de la même manière que vous sortez d'un film. Comment vous rentrez dans un film ? Comment vous sortez dans un film de manière très simple, en étant accompagné ?
Donc vous restez conscient en fait.
Exactement. L'état d'hypnose, c'est pas un état de sommeil, c'est pas un état d'inconscience, c'est un état de conscience modifié. Alors, sans rentrer dans ce... En fait, plus que la définition de l'hypnose, ce qui est le plus important, c'est qu'est-ce que c'est être hypnotisable ? Et être hypnotisable, c'est simplement croire en son imaginaire. Ce qu'on fait quand on regarde un film, tout simplement.
C'est votre voix qui est dans le casque. Vous avez une voix extrêmement apaisante.
Dans la plupart, c'est la mienne, mais on a d'autres personnes qui posent leur voix.
Il faut une suspension de l'incrédulité, quoi, en fait.
Une suspension de l'incrédulité.
C'est une belle formule. Combien il coûte ?
Alors, le masque coûte 199 €. On peut le trouver en 2x100 frais sur notre site internet.
Il est sorti depuis combien de temps ?
Alors depuis fin 2015 pour les professionnels, les dentistes, différents chirurgiens, différents praticiens, et depuis fin 2017 pour le grand public, donc chez Nature et Découverte, chez Boulanger, sur Amazon et sur notre site internet.
Évidemment, et on vous retrouve aussi au Salon Made in France.
Et on sera dès ce soir en train de préparer notre stand sur le Salon Made in France. Donc on invite tous ceux qui le souhaitent à venir le tester.
Merci d'avoir été avec nous.
Avec grand plaisir.
Sur
Merci
Europe 1. Elisabeth, on se dit à lundi.
À lundi déjà, c'est la fin de la semaine.
Oui, Laurent Choin, à bientôt. Le coach du jour. Lundi, on vous prépare encore une très belle semaine et des surprises, vous verrez. Je ne vous en dis pas plus.
Merci Raphaël Duchemin. Et à lundi, dans un instant, à 14h pile sur Europe 1, Christophe Ondelat raconte. Aujourd'hui, une affaire criminelle qui a marqué le début des années 2000. Souvenez-vous, le 18 décembre 2004, une infirmière et une aide-soignante de l'hôpital de Pau sont sauvagement tuées. La police arrête un jeune schizophrène, Romain Dupuis. Eh bien, Christophe Ondelat vous raconte cette histoire de 2004 dans un instant sur Europe 1.